un podcast France Culture.
Alexandra Delbeau, bonjour.
Bonjour Guillaume. Enfin, un sujet qui va vous intéresser.
Tous les sujets que vous faites m'intéressent, mais ce matin, effectivement, celui-ci m'intéresse particulièrement puisque on peut voir comment les mathématiques peuvent améliorer les performances sportives des coureurs.
Les coureurs que vous êtes. Quand on pense performance sportive, on ne pense pas mathématiques d'abord, mais physiologie. Comment l'oxygène arrive dans les poumons et transporté aux muscles, comment le cœur se met à battre plus vite ou comment les dépenses énergétiques augmentent. Pourtant, tout ceci peut se lire en chiffres et en statistiques et je mets ma main à couper, Guillaume, que vous avez une montre.
Elle est là.
Pour courir, je la vois. Vous connaissez donc certainement votre rythme cardiaque au repos et à l'effort, en combien de temps vous faites le kilomètre, le semi et bientôt le marathon, l'ensemble de ces processus physiologiques. L'ensemble de ces processus physiologiques et physiques du corps humain peuvent aussi se lire en équation et donc il est possible de modéliser les performances sportives. Amandine Aftalion est mathématicienne, directrice de recherche CNRS à l'EHESS et autrice principale de cette nouvelle étude.
L'intérêt des mathématiques et de la physique, c'est de partir des lois de physique pour construire un modèle. Donc notre modèle, il repose essentiellement sur trois lois qui sont assez simples à expliquer, qui sont la seconde loi de Newton, qui met en équation le mouvement, qui va dire que la variation de vitesse, c'est la somme des forces, la conservation de l'énergie, qui elle a deux sources, l'oxygène, ou énergie aérobie, et l'énergie anaérobie, c'est-à-dire celle qui ne vient pas de l'oxygène. Et enfin, l'athlète a un cerveau et ce cerveau contrôle le mouvement. Donc un athlète ne va pas varier sa force avec un bouton on-off. Il a un effort à fournir et pour courir de façon performante, il faut minimiser cet effort. Donc on cherche à minimiser l'effort, l'énergie, et le temps final pour arriver le premier.
C'est le principe des coûts et bénéfices qui s'appelle en mathématiques le contrôle optimal. De nombreuses variables entrent en jeu dans ce modèle. L'énergie anaérobie sans oxygène, l'énergie aérobie avec l'oxygène, la VO2, c'est-à-dire le débit d'oxygène
très important,
par
la VO2.
Unité de temps, ou encore la force de propulsion.
Ouais, ça aussi, c'est assez important. Bon, alors, vous allez me dire comment on peut tout obtenir en matière de données, parce que figurez-vous que là, j'ai beau trifouiller ma montre, elle ne les indique pas.
Vous n'avez pas votre VO2?
Ma VO2.
Évidemment,
je l'ai, ma VO2.
Bon, énergie, anaérobie, aérobie, vous ne l'avez pas. En fait, on pourrait théoriquement mesurer ces variables avec des prises de sang, des machines, ou en coupant les athlètes comme vous en morceaux, mais ce n'était pas l'objectif de l'étude. Justement, ce modèle part d'une unique donnée, la vitesse de coureurs et coureuses du 400 et 1500 mètres, notamment des championnats d'Europe de Munich en 2022. Il ne s'agit pas d'une valeur globale, mais d'une valeur extrêmement précise, toutes les 100 millisecondes pendant toute la durée de la course. Et grâce à cela et au modèle, bien sûr, tous les paramètres physiologiques et leurs variables ont pu être simulés et calculés pour qu'ils correspondent parfaitement à la courbe de vitesse réelle de l'athlète pendant sa course. Résultat, voici la recette pour réussir au mieux un 400 ou un 1500 mètres.
Le 400 mètres, il faut partir à fond et essayer de limiter la chute de vitesse. Donc, on se rend compte que, évidemment, le 400 mètres est une course qui se court avec une forte proportion d'énergie anaérobie, ça tout le monde le savait, mais on arrive à mettre en évidence par nos courbes quelle est l'influence de la part aérobie sur le 400 et donc comment mieux améliorer l'entraînement chez les coureurs, c'est ce qu'on propose dans l'article. Sur le 1500, il faut partir très fort pour mettre en route le système aérobie et accélérer en fin de course. On a spécialement étudié Jacob Ingebrigtsen, qui est le champion norvégien du 1500, et il a visiblement, d'après ce que met en évidence notre étude, une VO2, c'est-à-dire un débit d'oxygène qui se met en route plus vite que ses concurrents. Et ça lui permet de ne pas être obligé de partir aussi fort. Donc le premier tour, il le fait très rarement en tête. Ça lui économise de l'énergie sur le premier tour et ce qui lui permet à partir du deuxième, troisième tour d'avoir un rythme de croisière qui est plus important à un moment où au contraire ses adversaires vont être fatigués.
Et si on touche du doigt ce qui fait une bonne course, qu'on soit championne olympique ou coureur du dimanche,
soyez pas grossière.
C'est pas vous que j'ai vu, c'est plutôt moi. Il y a de l'entraînement et des particularités physiologiques. On peut peut-être appeler ça le talent, mais il y a aussi le mental.
Ah, le mental, c'est
le
ça
mental.
Qu'il faudrait que je travaille
Exactement.
Avec vous.
Voilà. Et c'est la première fois qu'un modèle mathématique ne s'occupe pas uniquement de l'aspect mécanistique et énergétique, mais intègre aussi la motivation, c'est-à-dire comment ce paramètre peut jouer sur sur l'intensité de l'effort et sur la rapidité à réagir. La poursuite de ces travaux, ce sera d'étendre ce modèle en l'adaptant à d'autres sports, du moment que l'on dispose de données suffisamment précises pour le faire. Et le prochain sur la liste, ça va encore vous faire plaisir, Guillaume, c'est le vélo.
Bah voilà, le vélo. La course, c'est effectivement... Voilà, il faut se perfectionner dans ces deux domaines. Merci beaucoup, Alexandra Delbo. C'était avec Science.